Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Musique du monde. Musique du monde. Stéphane Ronxin.
Il n'y a qu'un seul genre de blues. Quand un homme et une femme s'aiment, c'est signé Sunhouse. Alors je ne sais pas si ce live du mercredi en direct du studio 136 de la Maison de la Radio va vous raconter une immense histoire d'amour, mais avec ce que je vois, d'ailleurs que vois-je, je vois Jean-Jacques Milteau, dit l'homme à l'harmonica, qui sort un nouvel album, Live Hot and Blue, chez Universal Music, un album enregistré au cours de la tournée 2005. Mais pourtant, il a choisi d'interpréter d'autres titres, avec le complice Manu Galvin à la guitare, Michael Robinson et Ron Smith au chant. Premier titre live donc dans cette émission, dans les musiques du monde, Down in Mississippi. Messieurs, c'est quand vous voulez.
Can remember when angel put its plow on wood. One of them long those nights beside down at the ocean low.
Down in Mississippi.
Lucky man to get away from there with my life.
Down in Mississippi, well,
Bravo. Bravo Jean-Jacques Milteau, Manu Galvin, Michael Robinson, Ron Smith avec le titre Down in Mississippi, écrit par J.B. Lenoir. C'est un, paraît-il, un type assez gentil à qui Wim Wenders a consacré une grande partie de son documentaire The Soul of a Man. C'était dans la série des films qui avaient été consacrés au blues produit par Martin Scorsese. Down in Mississippi n'est pas sur votre nouvel album, Jean-Jacques Milteau. Vous avez choisi aujourd'hui de nous présenter d'autres titres. Alors, je vous présente Joe Farmer, notre griot. On n'entend pas bien Jean-Jacques Milteau.
On ne le présente plus, Joe Farmer. Tout le monde le connaît.
Trop aimable.
Donc, Joe Farmer va vous faire quelques compliments. C'est son métier. On a décidé qu'il serait griot aujourd'hui. Joe Farmer.
Soyons honnêtes, Laurence, il est quasi impossible de résumer en quelques phrases, en quelques mots, les mille et une vies de monsieur Jean-Jacques Milteau, globe-trotteur perpétuel. Nous avons tout de même la chance d'avoir réussi à le coincer en studio pendant une heure. Un vrai privilège quand on connaît l'emploi du temps ministériel de notre invité. Il faut dire que la période est plutôt faste. Un album live à promouvoir, des concerts en première partie de Schmoll, une tournée sans enfin dans toute la France, des rendez-vous radiophoniques car JJ est également animateur radio à 16h, sans compter son quotidien d'harmoniciste au service d'un répertoire enraciné dans l'âme noire. Autant dire que nous sommes en présence d'une vraie personnalité. Ce n'est pas mon statut de fan inconditionnel qui travestit ici ma réflexion. Il suffit d'ouvrir son esprit et d'entendre le lyrisme de l'artiste pour comprendre sans effort sa réelle valeur. Qu'il éclaire la musicalité d'un Jill Scott Heron ou qu'il illumine les compositions d'un Gabriel Yared, son investissement sincère est le même avec cette flamme blues héritée de ses frères d'Amérique. De Rovaniemi en Laponie à Johannesburg en Afrique du Sud, ses notes inspirées ont résonné comme autant de petites pépites dans le cœur des spectateurs. Et maintenant que les présentations un poil flagorneuses sont faites, laissons à nos auditeurs le soin d'apprécier la pertinence de mes commentaires et le talent du musicien.
Est-ce que ce cirage de pompe vous convient, Jean-Jacques Milteau ?
Il faut me dire combien je vous dois.
C'est très cher, bien sûr.
Ah bah, les billets dans le corsage, même pour les garçons. Revenons à cet album live qui sort, qui s'appelle donc Live Hot and Blue. Je voulais savoir avec Manu Galvin qui vous accompagne, qui est à la guitare, si vous avez des souvenirs de tournées un petit peu particuliers. Notamment par exemple en Amérique centrale, ou Honduras, ou Panama, je ne sais pas, est-ce que parfois...
Il faut le laisser parler peut-être,
Manu,
je ne sais pas.
Des souvenirs particuliers,
ouais.
pas forcément culinaires.
Non, pas bien. Non, j'évoquais tout à l'heure, je crois que c'est un concert au Honduras, qu'on a dû faire dans un hôtel, et on a eu la bonne surprise de voir arriver des gens armés qui venaient pour discuter la recette. Donc ça, c'est un petit peu surprenant, parce qu'on s'est trouvé d'un coup transporté dans un feuilleton de Mission Impossible.
Et ça va venir en France, hein, les gens vont
oui,
être de plus en plus armés, je pense.
Voilà. Non, mais il y a d'autres souvenirs. C'est le premier qui me vient comme ça, parce que c'est plutôt rigolo, mais il y a des tas d'endroits assez...
Je me rappelle que tu as eu une médaille, je sais plus si c'est dans le même pays, où tu as eu la médaille du Gordo de la Semana.
Oui, mot à mot, le gros de la semaine.
Voilà.
C'est ça, hein.
Ça existe aussi au Brésil, et en général, on le met devant pour le carnaval.
Oui, mais je n'ai pas osé la mettre devant.
Il n'a pas figure de proue.
Il n'y a plus de place.
Il n'y a plus de place, dit votre ami. Alors, sur cet album, pas mal d'invités. Sur ce live, Joe Farmer, d'ailleurs, a été assez surpris par la pléiade d'artistes qui vous accompagnent, Jean-Jacques Milteau.
Oui, depuis de nombreuses années, vous vous confrontez à la musicalité d'autres musiciens. Pourquoi ? Pour éviter la routine ou pour vous mettre en danger ?
Ah non, pas du tout. C'est parce que j'aime beaucoup écouter de la musique, d'une manière générale. Donc, le fait de collaborer avec des gens qui jouent bien et qui chantent bien, c'est un vrai plaisir, parce que j'ai la chance de pas jouer tout au long du concert. Enfin, moi, j'ai de la chance de pas jouer tout au long du concert, et les spectateurs ont de la chance que je ne joue pas tout au long du concert non plus. Donc, ça me permet d'écouter mes camarades musiciens et chanteurs.
Est-ce qu'il y a une routine dans ce métier ?
Il faut éviter. Le jour où il y a routine, on le sent. De toute façon, il y a une espèce de torpeur qui envahit, je crois.
Est-ce que le fait de jouer aux côtés des Little Milton, Terry Callier ou Gilles Scott Heron n'est pas une manière de perpétuer la tradition noire américaine au moment où les Ray Charles, James Brown et autres Johnny Hooker nous quittent ?
Ce qu'on a initié, Manu et moi-même, à travers ces différentes expériences et celle-ci aussi de cette seule conversation que vous avez entendue tout à l'heure et que vous allez entendre, c'est une rencontre franco-américaine. C'est vrai qu'on a eu quelques petits différends entre nos deux grandes nations, comme disent les politiques, ces derniers temps, mais je crois qu'on a des valeurs communes. Je crois que le blues et le jazz ont été reconnus en Europe, peut-être d'abord en France, et simplement parce que peut-être on a des choses en commun. Et moi, je me sens pas très proche dans le sens de la vie quotidienne, mais très proche dans le sens des émotions et des revendications des musiciens noirs américains, oui.
Et très proche aussi de la chanteuse Demi Evans, qui est sur cet album et qu'on retrouvera certainement sur scène quelque part en France.
Wait in the
children away in the waters. God's gonna trouble the waters. Who's that standing there dressed in red? God's gonna trouble the waters. Must be the children that Moses led. God's gonna trouble the waters. Hey now.
Avec la voix chaleureuse de Demi Eban sur RFI dans les musiques du monde en compagnie de Jean-Jacques Milteau. Alors Demi, on la retrouvera sur scène avec vous le 13 mars pour le concert de Poitiers parce que Demi n'est pas sur toutes les scènes avec
vous.
Ah
non, c'est toujours des surprises avec nous parce que sinon ça serait trop facile. Demi est encore aux États-Unis, elle devrait rentrer après-demain.
D'accord. Jo.
Parlons un petit peu de l'harmonica. On a le sentiment que c'est un instrument facile à jouer, moins facile.
Bien, vous avez raison.
C'est vrai.
Je confirme.
C'est moins fastidieux que le violon ou le saxophone en tout cas.
Je ne sais pas, j'ai même pas osé essayer le violon. Mais l'harmonica, c'est pas extrêmement difficile. Ce qui est difficile après, c'est de lui faire dire des trucs. C'est-à-dire, ce qui est difficile avec un instrument, c'est pas tellement, je crois, de le posséder, mais après de s'en servir comme d'une sorte d'interprète.
Vous ne jouez que de l'harmonica ?
Oui, il y a même une dame qui m'a dit c'est tellement beau ce que vous faites, on dirait pas que c'est de l'harmonica.
Pourquoi ?
C'est joli, c'est un...
Je ne sais pas, il faudrait lui demander à elle. C'était dans un ascenseur à Lyon il y a 10 jours.
Mais est-ce que l'harmonica aux États-Unis, dans le monde du blues, n'a pas remplacé peu à peu le violon dans les orchestres ?
Si. Si, c'est vrai, mais pour une raison simple, je pense, c'est qu'au 19e siècle, beaucoup de pasteurs considéraient le violon comme l'instrument du diable. Et donc, ce qui a été confirmé depuis par André Rieu.
Oui, mais, c'est monstrueux ce que vous dites, Jean-Jacques.
Pourquoi ?
Non, parce que c'est vrai.
Bah oui. Et en fait, probablement, en tout cas dans le Tennessee et toute la région centre-est des États-Unis, l'harmonica a pris la place du violon dans un certain nombre de formations.
Et probablement aussi que ça coûtait beaucoup moins cher.
Oui, sûrement, puis c'est plus facile à jouer, comme le disait Jo.
Ouais.
C'est moins fragile aussi.
Ah bah, c'est allemand, c'est solide.
Bah voilà,
je croyais que les harmonicas étaient une denrée périssable, qu'il fallait en changer souvent, que c'était, ça se cassait la stoche.
C'est quand même les Mercedes, faut les changer. Mais les harmonicas, on les change plus souvent que les Mercedes, mais en fait, c'est solide quand même.
D'accord.
Comment un instrument d'origine européenne, donc allemand, a-t-il pu devenir une pièce maîtresse de la culture nord-américaine ?
C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une culture quelque part qui existe sans apport extérieur ? J'ai un peu de mal à le croire. Donc là, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on arrive à tracer les choses. Après, plus on va dans au profond, plus on a des difficultés à tracer. Mais là, ça a 150 ans à peu près. Donc on peut voir le trajet des immigrants américains, allemands, plutôt emmenant aux États-Unis les premiers harmonicas dans les années 1850. Et puis ça devient un cadeau pour les gosses, et les gosses grandissent et continuent à jouer de l'instrument, ainsi de suite.
C'est devenu un instrument universel, l'harmonica. Tout le monde, dans tous les pays, joue de l'harmonica ?
Quasiment universel. On est allé plusieurs fois en Chine. J'ai eu la chance de visiter une usine d'harmonica à Shanghai, par exemple. Il y a des millions de gens, vous vous rendez compte, qui jouent de l'harmonica dans le monde entier. Je crois que le seul continent, peut-être, qui a échappé à l'harmonica, c'est l'Afrique.
Je crois que c'est l'instrument qui se vend le plus au monde, hein, l'harmonica. On pensait que c'était la flûte ou des choses comme ça, mais c'est l'harmonica. Vous, c'est en voyant Bob Dylan avec son rack, guitare et harmonica, c'est ça, c'est lui qui vous a donné envie ?
Oui, enfin, en l'entendant, disons qu'au moment où j'ai écouté Bob Dylan, je sortais de l'adolescence, donc pour vous dire, c'est pas d'hier. Et en fait, c'est ce côté, pour moi, c'était très nouveau, quelqu'un qui disait des choses un peu contre-culturelles comme ça. J'ai assimilé l'instrument à la démarche.
Alors, il y a l'instrument chromatique et l'harmonica diatonique. C'est quoi la différence ?
Ah, il y en a un qui est cher, le chromatique, qui est un vrai instrument, qui se pratique comme la flûte ou le saxophone, où on travaille les gammes et tout ça. Et puis l'autre qui est un instrument de gosse, d'amateur, qui est celui dont je joue, qui est l'harmonica diatonique, avec lequel, ma foi, on est plus près de quelque chose d'un peu roots, mais qui ne... Si vous voulez, c'est comme le fusain et la vidéo.
Donc vous êtes un artisan, en quelque sorte. Vous utilisez un...
Je dirais un batteleur.
Un battleur,
oui.
Un troubadour.
Est-ce que dans le blues, on utilise plus, par exemple, cette harmonica diatonique, et dans le jazz, on est plus sophistiqué, on irait vers le chromatique?
Oui, parce que les harmonies du jazz sont parfois plus complexes, et donc on a tendance à rechercher des choses un peu plus sophistiquées. Le blues, c'est quand même brut de décoffrage, c'est une musique plus de, je pense, de partage. Le jazz, c'est une musique de proposition.
Si vous aviez un harmonica chromatique, est-ce que vous seriez obligé de vous balader avec 12 ou 15 harmonicas diatoniques? Parce que j'ai vu, vous êtes très fort. Et c'est pour avoir différentes tonalités, dans différentes gammes.
Exactement. Ouais. Dans la mesure où chaque fois que j'essayais de jouer du chromatique, je me suis arraché les poils de la moustache, j'ai arrêté.
Oh Jean-Jacques, vous me faites mal. Bien, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission, vous voulez?
C'est
bien?
C'est vous qui voulez.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a les informations et si je... Enfin, on n'a pas le droit. Voilà.
D'accord.
Jean-Jacques, à tout à l'heure. Merci.